nature qui est tout en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et il y a du blé qui se fait du mouron. Les oiseaux, eux, ils disent pas non, c'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Et il y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et il y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Et à la pluie qui est passée chez Dior pour se payer le modèle Soleil d'Or. Il y a la route qui se fait nationale et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Et il y a de la luzerne au fond des lits et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Et y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et il y a le Beaujolais qui la ramène et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue et des ballots qui n'ont pas vu.
C'était un drôle de type qui vivait de sa plume. Léo Ferré est né il y a 100 ans, le 24 août 1916 à Monaco. Une naissance qui dévoque d'ailleurs plus ou moins dans Benoît Misère. Je m'accrochais comme une bernique au fond du trou noir où ni voyelles ni consonnes ne peuvent formuler la comédie phonétique de l'autorité. Bonjour Louis-Jean Calvet.
Bonjour.
Cet extrait de Benoît Misère, je l'ai lu dans votre livre, Léo Ferré, biographie parue chez Flammarion en 2003 et désormais disponible en poche. Alors vous êtes linguiste, professeur d'université, biographe de Roland Barthes, de Georges Brassens, de Moustaki et de Léo Ferré, 100 ans aujourd'hui. On va parler de ce rapport que vous avez eu avec Léo Ferré, de cette biographie qui est assez particulière d'ailleurs. Mais d'abord, moi j'ai choisi cette chanson parce que je l'adore, c'est le printemps. Moi j'aime beaucoup les chansons de Ferré. Gaie, joyeuse, et pourtant, c'est pas celle auxquelles on pense a priori, mais plutôt parfois des chansons lyriques, tristes, et même peut-être les puristes Ferré qui trouvent, qui méprisent un peu ces chansons. C'est un malentendu ou pas ?
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs périodes dans la vie de Ferré et plusieurs publics. Il avait dans les années 50 un public d'esthète qui adorait ses alexandrins, l'étang chimérique, le bateau espagnol. Là, on est au début des années 60 avec C'est le printemps, hein. Valse musette. Enfin, c'est une chanson de type classique, quoi, orchestrée. Et puis c'est à partir de 68-69 qu'il va passer dans une autre période, hein, vociférant, scandant des textes.
On va entendre
on
ça
va
aussi.
Entendre ça aussi, oui.
Je le disais, vous avez écrit des biographies de Moustaki, de Brassens, mais celle-ci, Louis-Jean Calvet, parue donc chez Flammarion en 2003 et depuis rééditée à l'Archipoche, en livre de poche, préfacée d'ailleurs par Bernard Lavilliers. Celle-ci, vous l'expliquez d'emblée, elle est différente parce que vous avez puisé dans vos souvenirs, vous avez bien connu Léo Ferré, vous avez été compagnon de route. Comment vous vous êtes rencontré ?
Oh là là, on s'est rencontré en octobre 70. Il chantait à Bobino. J'étais allé l'écouter. Et il avait une chanson sur un journal qui s'appelait La Cause du Peuple, journal maoïste, qui avait été interdit.
L'histoire de Sartre.
Voilà, les directeurs mis en prison, Sartre prenant la direction. Et Léo parlait de ça. Ça s'appelait Conditionnel de variété, en disant il faut acheter et lire La cause du peuple. Et moi, j'étais dans le groupe de Sartre qui vendait La cause du peuple sur les marchés, dans les rues. Et je téléphone à Bobineau en demandant à voir Ferré. Bon, je le vois finalement. Et je lui dis, écoute, c'est bien beau de dire, il faut l'acheter, il faut aussi le vendre. Et on avait mis au point un système, c'est-à-dire que c'était un dimanche après-midi, il y avait un entracte. Il avait chanté cette chanson juste avant l'entracte. Et à ce moment-là, on se levait dans la salle, on était une dizaine, en vendant le journal. C'est comme ça que je l'ai connu. Puis, quelques temps après, mais enfin, 4-5 jours, on s'est revus. Et puis, j'écrivais dans un journal. J'étais déjà prof de fac, mais j'écrivais dans un hebdomadaire qui s'appelait Politique Hebdo. Je l'interviewais, etc. Bon, ça a été une longue histoire ensuite.
1970, si je ne m'abuse, c'est l'année d'Avec le temps. Avec le temps, tout s'évanouit. Question à 300 balles, comme on dit, comme il écrit dans Dieu est nègre. Mmh. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Ferré ?
Eh ben, il reste tout ça. Il reste tout à l'heure, vous avez fait allusion en saluant le journaliste Joli Môme. Joli Môme, c'est une chanson qu'on a connue par d'autres voix que celle de Ferré, parce que c'était Gréco, c'était Catherine Sauvage. Hein,
Sauvage, d'ailleurs, première interprète.
Absolument,
de Ferré.
Oui. Il voulait pas chanter, Ferré, de toute façon. Hein, il cherchait des voix, un peu comme Brassens au début de sa vie. Il reste ça, il reste Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, et on entend... Avec cet enchaînement, va tout s'en va tout, on l'entend, va-t'en. Hein, chanson de rupture, quoi, full camp, etc. Et puis reste La mémoire et la mer, enfin, il y a des choses, ces grands poèmes lyriques qu'il va écrire à la fin de sa vie.
Les jeunes chanteurs, est-ce qu'ils invoquent, quand vous les écoutez, quand vous les lisez, est-ce qu'ils invoquent son héritage ? Est-ce qu'il y a une jeune génération qui se revendique de Ferré ?
Les jeunes chanteurs, je ne sais pas ce que vous appelez jeunes. En tout cas, il y a une génération de gens comme Bernard Lavilliers, tout à l'heure vous en parliez, qui chantent régulièrement Brassens sur scène. Il y a des tas de gens, Kali par exemple, va reprendre des chansons de Brassens ou de Moustaki, ça dépend des jours. Quoi. Bien sûr, il est incontournable. Il y a deux ou trois horizons, celui de Brassens, celui de Brel, celui de Ferré, pour parler des hommes, qui sont incontournables. Les uns se raccrochent à Ferré, d'autres à Brassens.
260 chansons, 135 poèmes. Alors je vous ai demandé d'en choisir une. Je vous ai d'ailleurs pas mal retoqué parce qu'on va entendre beaucoup sur France Musique tout au long de la journée des chansons de Ferré chez Martin Penet de 9h30 à midi dans Couleur d'été spécial et puis chez Thierry Jousse dans Retour de plage de 18h à 20h. Et on s'est accordé finalement sur La vie d'artiste, un de ses classiques, une des chansons des débuts aussi.
Oui, mais j'ai obtenu de votre grâce d'en écouter un petit morceau d'une autre version. Donc, c'est une chanson des années 50 dont le texte n'est pas de Ferré, il est de Francis Claude. Ferré ne voulait pas écrire d'ailleurs, il voulait faire de la musique. Au début, il met en musique, on va en parler tout à l'heure.
Donc, La vie d'artiste. Avant poète, ça on va en parler tout à l'heure. La vie d'artiste, première version.
C'est parti.
Je t'ai rencontré par hasard ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes, sans se connaître on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis qu'on est toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en, mon pauvre amour.
passe vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais. Il lui dira que je m'en fiche.
La vie d'artiste, première version, votre choix. Louis-Jean Calvet, matinale spéciale, les journées spéciales, Léo Ferré, 100 ans après sa naissance. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui sur France Musique. Ça, c'était la première version. Pourquoi? Oui. Quel intérêt d'entendre ce qu'on va entendre dans quelques instants, c'est-à-dire Ferré, 20 ans après, qui chante, si on peut dire, la même chanson?
Vous l'entendrez lorsqu'on l'entendra. Non, ce qu'on vient d'écouter, c'est une orchestration qui est très datée, hein. N'importe quelle personne qui s'intéresse à la musique s'en rend compte, le placement de la voix de Ferré. Et puis 20 ans après, une chanson de rupture, donc 20 ans après, il ne la chante plus, il l'a dit. Alors on a choisi de mettre juste la fin, il se met à hurler en tapant sur le clavier jusqu'à le faire péter.
Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
Ben, il était seul au piano, un arpège d'abord, c'est très tranquille. Il a dans la voix une sorte d'ironie, et subitement, que je m'en fiche, que je m'en fiche. Sur scène, il le hurlait parfois, et il se met à taper sur le clavier. C'est-à-dire qu'on a le même matériel, la même chanson, la même mélodie, sauf qu'il chante plus, hein, les mêmes harmonies. Et il le traite différemment. Et là, 1950-1972, vous avez les deux Ferré. Le Ferré harmoniste qui sur valse musette et le Ferré hurlant devant des drapeaux noirs.
Louis-Jean Calvet avec nous sur France Musique, mais aussi au téléphone Thierry Frémaux. Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Directeur de l'Institut Lumière à Lyon. Le Festival Lumière, c'est dans quelques semaines à partir du 8 octobre. Délégué général du Festival de Cannes et, je ne sais pas comment on dit, ferréophile. Ça vous a pris jeune?
Oui, ça m'a pris jeune, oui, ben, parce que je suis peut-être d'une génération qui était obligatoirement touchée par d'abord la chanson française, à texte, les grands auteurs, et le trio Ferré, Brel, Brassens se posait quand même là, et puis il se trouve, oui, que Léo Ferré, je l'ai vu 17 fois, moi, en concert.
À Lyon, notamment
et, à Lyon, mais à Paris, mais partout, dès qu'il était quelque part, on prenait la voiture et on allait le voir. Il venait une fois par an. J'ai juste raté le dernier concert, c'est-à-dire la dernière fois qu'il est venu, peu de temps avant sa mort. Et oui, c'est quelqu'un qui a passionné. Je suis assez d'accord avec ce qui est dit là sur la vie d'artiste, mais justement sur l'idée que il y a tellement de Ferré que c'est une œuvre inépuisable. Truffaut disait qu'il fallait regarder la règle du jeu plusieurs fois dans sa vie parce qu'on n'était pas le même homme à chaque fois et qu'on en tirait autre chose. bah, je trouve que c'est un peu pareil avec les grands chanteurs et les grands auteurs, quoi. Et évidemment, Ferré, c'est complètement ça.
C'est quoi votre Ferré préféré, puisqu'il y en a plusieurs?
Ben, un peu tous, là, par exemple, le Ferré des années 50, le Ferré qui se cherche encore, mais qui est déjà bourré de talent, quoi, qui est déjà quelqu'un de très étonnant, qui écrit magnifiquement. Au début, je ne m'intéressais pas trop à ça, je trouvais ça un peu classique, et j'aimais en effet plutôt le Ferré déclamatoire, le Ferré anard et le Ferré musicien. Et maintenant, j'avoue que je retourne un peu vers le Ferré des années 50-60, le Ferré d'avant, 76-68, quoi.
Et dans ces textes, puisque vous citiez à l'instant Thierry Frémaux, François Truffaut, Ferré, c'était aussi l'homme qui aimait les femmes.
Oui, ben, l'homme qui aimait les femmes et l'homme qui les aimait pas beaucoup, c'est-à-dire que tous les jeunes hommes qui ont eu des chagrins d'amour ou qui en ont voulu à une femme trouvaient quand même de quoi s'inspirer, se consoler à travers les textes de Ferré. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a une version magnifique d'Avec le temps à De Gazet, je crois, où en effet il éructe un peu le texte et puis évidemment, il insulte carrément une femme. Et aujourd'hui, je crois que ça serait pas possible, hein. Je crois qu'un chanteur s'amuserait à faire ça. Ça ferait un énorme scandale. Et Ferré avait cette espèce de mauvaise image. Il a longtemps eu ça. Jusqu'au moment où aussi d'autres chanteurs, chanteuses, Dalida, Jane Birkin, quand elles ont commencé à reprendre ces chansons, ça a adouci un peu aussi son image.
Merci Thierry Frémaux. Quelle chanson vous avez choisi parmi les 260?
J'ai choisi, ben, c'est drôle, ça tombe un peu sur la conversation qu'on vient d'avoir, une chanson qui s'appelle Ton style, qui est bien dans cette étape un peu intermédiaire, qui est une chanson dont les paroles, faut bien écouter les paroles, peuvent donner le sentiment qu'elles sont un peu scandaleuses, un peu, et c'est en fait une chanson d'amour.
Merci Thierry Frémaux, 8h26, paroles et musique, Léo Ferré et un parfum de scandale.
Tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense, aux bijoux de 3 sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile pour t'aimer de plus loin comme ça en passant, tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style c'est ton cul, c'est ton cul. C'est ton cul, ton style, c'est ma loi. Quand tu t'y plies, salope, c'est mon sang à ta plaie. C'est ton feu à mes clopes, c'est l'amour à genoux et qui n'en finit plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Tous ces ports de la nuit, ce monde qu'on voudrait bien, et puis qu'on ne veut plus, dès que tu me fais signe au coin d'une réplique, enfoncé dans ton bien par le sang de ma grappe et le vin de ta vigne, tout cela se mêlant en mémoire de nous, dans ces mondes perdus de l'an 80 000, quand nous n'y serons plus et quand nous renaîtrons, tous ces trucs un peu fous, tout cela c'est ton style, c'est ton. C'est ton cul, ton style, c'est ton droit. Quand j'ai droit à ton style, c'est ce jeu de l'enfer, de face et puis de pile. C'est l'amour qui se tait quand tu ne chantes plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. «
À t'en vouloir connaître, on ne connaît plus rien. Ce qui me plaît chez toi, c'est ce que j'imagine à la pointe d'un geste, au secours de ma main, à ta bouche inventée, au-delà de l'indigne, dans ces rues de la nuit avec mes yeux masqués. Quand tu ne reconnais de moi qu'un certain style, quand je fais de moi-même un autre imaginé, tous ces trucs imprudents, tout cela c'est ton style. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Ton style, c'est ta loi, quand je m'y plie, salope, c'est ta plaie, c'est mon sang, c'est ma cendre à tes clopes. Quand la nuit a jeté ses feux, et qu'elle meurt, ton style, c'est ton cœur. C'est ton cœur, c'est ton cœur. Ton style, c'est ton cœur.
Ton style, Léo Ferré, le choix de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes et inconditionnel de Léo Ferré, avec nous en studio pour cette matinale Léo Ferré spéciale sur France Musique à l'occasion des 100 ans du chanteur, poète, compositeur Louis-Jean Calvet, et cette biographie parue il y a une dizaine d'années chez Flammarion et maintenant en poche, Léo Ferré, tout simplement. Si je ne m'abuse, là, dans cette chanson, il y a quand même musicalement une grande parenté avec le classique des classiques de Léo Ferré, avec le temps.
Avec le temps,
notamment dans l'introduction.
L'attaque au piano, hein, en arpège. Oui. J'ai l'impression qu'il travaillait c'était en mineur, bien sûr, en la mineur. Et sur un clavier, c'est toujours amusant de voir comment les gens partent dans la mineur et puis dérivent comme ça. Oui, il y a une parenté. Mais l'orchestration est quand même très différente. Ça tire vers la grande musique, comme on dit bêtement, ou la musique classique, comme on dit encore plus bêtement.
Alors, musique classique, grande musique, musique savante, que sais-je encore, son lien, Léo Ferré et lui, qui est évoqué dans votre livre, évoqué également sur francemusique.fr avec un article qui a eu pour source notamment votre livre. C'est un lien important et qui date de l'enfance.
Qui débute très très tôt.
À 4-5 ans, et c'est Beethoven, on l'évoquait en tout début d'émission à 7h, c'est Beethoven.
Oui, enfin, c'est ce qu'il raconte, lui, hein. J'y étais pas. Mais ce qui est sûr, oui, il dit qu'il pleure en entendant Beethoven, etc. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il était pensionnaire en Italie, parce que ses parents vivaient à Monaco, hein. Et il était de l'autre côté, du côté de San Remo. Et il chantait dans l'école catholique dans laquelle il était, des choses comme Palestrina, enfin bon, de la musique antique, j'allais dire, comme on dit en italien, antique. Et puis Ravel. Il raconte que un jour, son père travaillait au casino de Monaco et Ravel venait diriger et il était là, lui, Léo, dans la salle pendant une répétition et que Ravel lui aurait parlé et que ça a été la grande découverte.
Et le concerto pour la main gauche qui le hante toute sa vie.
Toute sa vie, puisqu'il va le diriger ensuite. Je me souviens du pianiste, il s'appelait, c'était un Suédois, Dag, quelque chose, qui avait la main droite derrière le dos pour jouer, comme ça, il a eu sans public avant, oui, oui, bien sûr. Mais c'était l'époque où il était en lutte contre différentes maisons de disques. Il m'avait dit, je me suis fait faire, ce qui était faux, bien sûr, un gant en fer pour ne pas pouvoir signer de contrat.
C'est l'époque du disque Léo Ferré muet.
Muet, et donc il restait avec la main gauche. Bon.
Et puis il a dirigé, notamment Beethoven, notamment puis, on entendra chez Martin Pennet tout à l'heure, il dirige l'ouverture de Coriolan, il y a aussi cette espèce de poème sur l'ouverture d'Egmont qui s'appelle Ludwig, où il déclame...
Ou cette sign, smooth sign, et puis bien sûr le mal-aimé.
Et puis, alors moi ce que j'ignorais totalement, ce que j'ai découvert dans votre livre, c'est que il a été au micro ici, enfin ici, ou l'ancêtre d'ici, ce qui n'était pas encore l'ORTF, il a présenté des émissions de musique classique, même très spécialisée, la musique contemporaine soviétique,
oui,
et
oui.
Puis il avait des avis assez tranchés,
Il a fait deux choses, il a fait ça où il descendait en flammes, Schoenberg,
Boulez aussi, mais il n'y a pas des mots très sympathiques sur Boulez.
Oui, ça, et c'était son ennemi juré. Vu du côté de Ferré. Il faisait aussi des émissions chaque semaine dans lesquelles il faisait une chanson, il composait une chanson pour une émission. Et là, il en reste des choses qui sont assez étranges, c'est drôle. Bon, c'était pas très bon toujours. Martha la petite mule, par exemple, on a quelques traces à enregistrer.
Aujourd'hui, Louis-Jean Calvet, on va peut-être d'abord dire Léo Ferré, le poète avant le compositeur. Est-ce que c'est quelque chose dont il a souffert ou qu'il aurait souffert d'être d'abord considéré comme quelqu'un qui écrit des textes avant la musique ?
Lui se considérait comme musicien d'abord. Et lorsqu'il s'est mis à écrire des chansons, c'était de la musique de chansons. Il a mis des gens comme René Baer, surtout Cosimon, et puis ensuite les grands poètes, en musique. Et il espérait que Cosimon le fournirait en texte longtemps. Il ignorait son talent, parce que lorsqu'il s'est mis à écrire, dès le début, c'est extraordinaire. Il a un rapport à la langue française, une richesse de vocabulaire étonnante, et même une façon de dynamiter le langage, en passant par l'argot, un argot qui paraît un peu vieilli aujourd'hui, ou parce qu'on vient d'entendre, ton style, c'est ton cul. Là, il y a Le Ferré avec sa plume.
On va écouter la fin du Mal-aimé, d'après Apollinaire. De quoi s'agit-il ? C'est une sorte d'opéra ?
Oui, pour lui, musicalement, c'est un opéra.
Créé à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo, l'autre Opéra Garnier.
Parce qu'il connaissait le prince de Monaco, l'ancien, qui était jeune à l'époque et qui lui avait prêté l'opéra, effectivement.
Juin, ton soleil ardente, c'est des textes d'Apollinaire, oui. Une musique de Léo Ferré, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Gianluigi Gelmetti et des voix et des choristes dont j'ignore, mais qui doivent venir aussi de Monaco, de Monte-Carlo. Oui. En écoutant cette musique, vous me disiez que il prenait son, vous le voyez prendre son pied en lisant des partitions avec mesures, des partitions orchestrales.
Lire comme on lit un bouquin policier, quoi. Et non, il connaissait la musique, mais en même temps, c'est pas ce qu'il a fait de mieux là. Enfin, vous disiez, c'est pas mal. Vous me disiez tout à l'heure quand on l'écoutait, oui.
Mais quelque chose d'un peu Poulenc, moi je trouve.
C'est ça, mais c'était les trucs d'écriture de l'époque. Il y a rien d'inattendu.
Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour.
Politologue, directeur de l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique, passionné de sport, vous revenez de Rio, mais aussi, et on l'apprend, si on n'a pas encore lu votre livre, Léo Ferré, toujours vivant, paru il y a quelques mois aux éditions de La Découverte, on apprend que vous êtes, vous aussi, un fan de Ferré, musique ou parole? Plutôt parole?
Plutôt parole, effectivement, avec bien sûr la dimension musicale, mais parce qu'elles enrobent les paroles, mais ce sont surtout les textes et la voix aussi qui m'ont frappé immédiatement.
Pour vous, il est un peu éclipsé aujourd'hui de la mémoire collective. Vous trouvez qu'il n'est pas assez reconnu aujourd'hui, à part France Musique, pas grand monde le célèbre?
Bah oui, effectivement. Bon, Radio France, France Musique fait son travail de service public. France Télévisions a refusé de rendre le moindre hommage à Léo Ferré. C'est quand même incroyable. Alors disons que par rapport à l'immensité de son œuvre, effectivement, il est moins présent parce qu'il n'est pas toujours d'accès facile et qu'il n'était pas consensuel, il était clivant, effectivement, et donc sa mémoire n'est peut-être pas suffisamment entretenue.
C'est pour ça que vous appelez le livre « Toujours vivant » ?
Oui, effectivement, parce que je crois que son œuvre, comme vous l'avez montré toute cette matinée, est quelque chose qui reste dans l'histoire, même 23 ans après sa disparition. Il y a des chansons, elles sont trop nombreuses, c'est toujours difficile d'en citer une, mais la plupart de ces chansons ont marqué les mémoires et je pense seront encore étudiées d'ici plusieurs années, à l'image de ce que peuvent faire les poètes maudits qu'il a lui-même mis en musique.
Voilà, c'est notamment ça sur lequel vous insistez, c'est il a fait descendre la poésie dans la rue, la sienne, mais aussi celle des autres. Il a offert notamment une seconde vie à des chefs-d'œuvre de la poésie. C'est ça qui vous intéresse aussi chez Ferré?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup, la poésie, des fois, on la prend un peu forcée et contrainte parce qu'il faut passer le bac de français. Léo Ferré l'a rendue accessible, intéressante, amusante, ludique et agréable, et non pas rébarbative.
Léo Ferré, toujours vivant aux éditions de La Découverte. Vous avez choisi quelle chanson, Pascal Boniface?
Pauvre Uteboeuf, parce que justement, il raconte qu'un jour, un camionneur lui avait dit « Alors, quand est-ce que tu chantes Pauvre Boeuf ?» Il disait que cette interprétation avait permis peut-être à des gens d'être curieux et d'aller chercher, de savoir qui était Uteboeuf, poète maudit, et puis aussi cette chanson qui a été par la suite reprise par Johan Baez.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente. Et droit au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils ventaient devant ma porte, et les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Rutebeuf, le choix de Pascal Boniface, qui a lui aussi signé un livre sur Léo Ferré, comme vous, Louis-Jean Calvé. Le sien s'appelle Léo Ferré, toujours vivant. Et il nous disait que John Baez l'a chanté, cette chanson, mais aussi Nana Mouskouri.
Oui, mais elle avait changé un peu le texte lorsque Léo écrit, parce qu'en fait, ce texte a été trituré par Ferré. Droit au cul qu'en bise-vente, elle avait changé et dit, chanté droit au but. Et Léo m'avait dit qu'il avait envoyé un télégramme disant « au cul, madame, au cul !» point d'exclamation, pour le rappeler à l'ordre.
On a évoqué la musique, on peut faire qu'une évocation comme ça en une demi-heure, évidemment, et je renvoie à votre livre passionnant, ce portrait intime, plus qu'une biographie finalement, où vous parlez aussi beaucoup de vous, Louis-Jean Calvet. On a parlé de la musique, on a parlé des femmes, on a parlé également de la poésie, des textes, mais finalement peu de politique. Est-ce que là, en 2016, le côté anard, le côté peut-être enragé plus qu'engagé de Léo Ferré est pas ce qui reste le plus ?
Sans doute, oui. Enfin, je veux dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, Ferré est tout à fait audible aujourd'hui. Hein, c'est pas une musique déclassée, démodée, etc. Et le message qu'il porte, on l'entend. On l'a peut-être entendu Place de la République au moment de Nuit debout, enfin, des choses comme ça. Beaucoup de gens s'en réclament. Une forme d'anarchie d'abord littéraire. Léo était très cultivé. Hein. Quand il parlait d'anarchie, il savait de quoi il parlait. Il lisait les classiques, les citait, etc. Et quand on le voyait devant 5 000 à 6 000 jeunes debout, hurlant, et qu'il leur disait « il n'y a plus rien, plus rien, nous aurons tout dans 10 000 ans », ça, c'est quelque chose qui peut être repris demain dans les rues.
Léo Ferré a dit « Mon fils est encore plus beau que la 9e symphonie », ce qui est peu dire. Bonjour Mathieu Ferré.
Bonjour.
Vous entendez ce que disait Louis-Jean Calvet. Moi j'ai une question aujourd'hui pour ce jour du centenaire. Vous qui vivez en Toscane, là vous avez vécu avec votre père. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir, des enregistrements, des textes, des chansons, des musiques ?
Oui, il y a encore quelques petites choses, mais vous savez, il y a 2 ans, j'ai publié avec les éditions Gallimard l'intégrale de tous ces textes avec de nombreux inédits. C'était un très gros travail, c'est vraiment un très très gros livre. Et il n'y a eu aucune chronique, aucun article, même pas une misérable dépêche AFP. Alors, c'est vrai que quand vous donnez beaucoup de mal pour faire des projets, pour sortir des choses, et puis après on vous demande s'il y a encore des choses à sortir, et quand vous faites quelque chose, ça passe dans le silence et dans l'indifférence et l'anonymat le plus total, ça vous donne pas vraiment envie de faire des choses.
Voilà. Mathieu Ferré, on consacre une journée spéciale à Léo Ferré sur France Musique. Vous considérez qu'il est un peu oublié aujourd'hui ?
Oui, mais c'est dans le fond pas plus mal, parce que si on l'entendait trop souvent et on le voyait trop souvent à la télévision, ça deviendrait comme une sorte de banalisation de normalité. Et c'est bien, dans le fond, je trouve que Léo soit un peu caché, secret, ça le rend plus attirant, je trouve.
Merci Mathieu Ferré d'avoir conclu cette matinale avec nous. Vous êtes en Toscane où vous, vous cultivez votre jardin, vos vignes.
Voilà, oui, oui. Le jardin, oui, pas trop le jardin, mais oui, plutôt des vignes et des oliviers.
Merci Mathieu Ferré, merci Louis-Jean Calvé d'être venu dans cette matinale spéciale. La journée Ferré se poursuit sur France Musique pour ses 100 ans avec de 9h30 à midi Martin Penet et de 18h à 20h Thierry Jousse. Léo Ferré, biographie préfacée par Bernard Lavillier chez Flammarion en 2003 et en poche désormais disponible. Le mot de la fin ?
Oui, merci d'avoir pensé à cette journée.
Bah merci,
il le méritait.
C'est nos grands dirigeants qui nous ont suggéré de célébrer
merci
le grand Léo.
Merci.
France Musique 8h49.